tomber est humain, se relever est divin. Debout, de Stéphane Haskell, est un film qui date de 2019 et par un concours de circonstances, pendant un moment de vacances, il m'est donné de tomber sur Debout. Or, je ne crois pas du tout au hasard, alors je prête une oreille attentive à ce qui se passe et le film, accompagné par la voix puissante et douce de Stéphane Haskell, m'emporte. Il montre comment le yoga permet de restructurer le mental, comment la douleur joue un rôle précis dans notre existence. Il présente la résilience, qui est le cadeau que la pratique du yoga offre à qui le pratique. Le yoga nous apprend à soigner ce qui ne doit être enduré et à endurer ce qui ne peut être soigné, comme l'a affirmé BKS Iyengar. Stéphane Haskell partage son cheminement propre durant lequel il retrouve la mobilité de son corps ainsi que le goût pour la vie dans son film Debout sur le thème du yoga. Accompagner Stéphane Haskell durant 90 minutes, c'est comme revivre mon propre cheminement sur de très nombreux points et je suis touchée. Ayant pratiqué tous les sports depuis très jeune, j'ai découvert le yoga de manière improbable à Mexico il y a 25 ans. En 1999, une amie, Maïna, m'a dit « Je vais t'emmener dans un cours de quelque chose que tu n'as jamais fait. » J'étais sceptique, croyant avoir tout pratiqué ou presque. C'est la pratique du yoga qui m'a patiemment menée vers la pratique de la méditation silencieuse, qui est le cœur de toute pratique, en 2013, près de 15 ans après avoir commencé le yogasana. Stéphane Haskell situe rigoureusement le travail immensément courageux que nous a légué BKS Iyengar et notamment son texte « L'arbre du yoga » qui représente pour moi un livre indispensable à lire et à relire chaque année, ce que je m'astreins à faire. Et je confirme cette pensée qui m'accompagne depuis longtemps, on ne peut bien parler du yoga ou de la méditation que lorsqu'on sait pourquoi ces pratiques nous ont sauvé la vie. La quête de Stéphane le mène vers l'Afrique et lui offre une rencontre avec la fondatrice de l'organisation African Yoga Project, ainsi que dans plusieurs prisons. Ce moment du film me rappelle le jour où je suis intervenue dans la plus grande prison du Mexique, El Reclusorio Oriente, en 2019. J'étais accompagnée par la merveilleuse Anne Moxie, professeure de yoga et fondatrice de Parinama, qui expliquait les postures que je faisais, que je réalisais, ainsi que par le musicien-magicien Eli O. Mais j'étais seule sur un tapis de yoga devant plus de 300 prisonniers hommes, assis devant moi dans un amphithéâtre. Et moi, au milieu de la scène, je m'observais en train de faire chaque asana, chaque posture, guidée par la voix de Anne, qui expliquait les bienfaits de chacune. Je n'ai jamais reçu autant de marques de reconnaissance de ma vie que ce jour-là, où les prisonniers faisaient la queue, à la fin du cours, pour me remercier personnellement, les yeux embués d'émotion et de gratitude. Il y avait des couleurs lumineuses à porter et d'autres à ne pas porter, le gris, le marron. Tout cela faisait partie du protocole. Et la photographie prise à la sortie montre Anne, Ellie et moi, le sourire ancré sur les visages, l'amour irradiant tout notre être. Dans la voiture nous menant vers la prison, Anne nous a obligés à nous changer. Un moment inoubliable que de se changer dans la voiture. Ellie porte une sorte de sarouel rouge, presque une jupe. Un haut violet. Je porte un haut violet un petit peu moins foncé que le sien. Un pantalon de yoga large qui ressemble aussi à un sarouel. Et au milieu, Anne, toute de bleu foncé vêtue, une bouteille à la main, un grand sourire aussi. Se tient. On ne peut bien parler du yoga et de la méditation que lorsqu'on sait pourquoi ces pratiques nous ont sauvé la vie, effectivement. C'est bien la raison pour laquelle Stéphane Haskell enregistre les mots si puissants prononcés par Iyengar lors de l'entretien qu'il a la chance de lui faire dans son film « Tous les enfants devraient faire du yoga ». Voilà ce que dit Iyengar. Effectivement, tous les enfants devraient avoir la chance de faire du yoga, tous les enfants devraient avoir le yoga à leur portée. Comme une pratique disponible, comme le disait mon ami et psychanalyste et peintre Jean Thibault Foultier dans un entretien que nous avons eu ce week-end passé, effectivement, il me disait le yoga, pas forcé, jamais forcé, mais comme quelque chose, comme une pratique qui est disponible, Lui, il l'a fait exactement de la même façon avec des enfants pour le tai chi, dont il est maître, qu'il enseigne. Et il me disait, je me permets de partager, Jean Thibault, il me disait, je les prenais à la sortie de l'école, on faisait un goûter, on faisait un peu de tai chi, ou on n'en faisait pas, ceux qui ne voulaient pas. Et voilà, les enfants ont pu recevoir cet enseignement précieux. En parallèle de mon activité de psychanalyste et de celle de professeur de yoga, j'ai été enseignante de maternelle et de primaire dans une école française assez longtemps, entre 2009 et 2021. Durant toutes ces années, j'ai enseigné le yoga et la méditation, comme j'ai pu, convaincue de l'importance de cette pratique pour devenir un être humain heureux, sachant habiter son corps. Finalement, heureux et sachant habiter son corps, c'est un peu la même chose. Au début, en 2009, un directeur d'école m'avait demandé de ne pas présenter la méditation comme telle et de dire plutôt qu'il s'agissait de relaxation, car cela passerait mieux. Ça faisait moins secte. Ensuite, plus tard, dans un autre établissement, on m'a demandé de ne pas trop faire de bruit avec cette pratique. On a même empêché un membre de la direction de pratiquer le yoga avec les professeurs qui souhaitent introduire un peu de douceur dans leur quotidien après les cours. Et c'était l'administration qui était la plus à faveur de la pratique du yoga. Et le corps enseignant, la direction du corps enseignant ne l'était pas. Aujourd'hui, je suis responsable du yoga et de la méditation dans une école britannique à tous les niveaux, de la maternelle au primaire, en passant par les familles des enfants étudiants dans cette école, pour certains cours de yoga et pour d'autres ateliers concernant des thèmes comme la communication non violente ou l'autocompassion. Et je confirme ce que j'avais découvert lorsque j'étais partie étudier au Royaume-Uni, mon premier master à l'âge de 21 ans. Les systèmes éducatifs ne se ressemblent pas en fonction des cultures et le système britannique en l'occurrence apporte moins de poids au verbe avoir qu'au verbe être. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances et de les régurgiter après si les contenants ne sont pas alignés. Ici, on a compris l'enjeu au-delà des croyances et des préjugés. Et dans l'entretien que j'ai avec Stéphane Haskell, on en parle justement. On parle de l'importance de la possibilité d'offrir le yoga aux enfants, de ce qui est en jeu dans les enfants, pour les enfants d'aujourd'hui, en 2024, et de réussir à dépasser les préjugés. Il parle des scuds qu'il a pris, et je parle aussi des miens. Les premiers à savoir que le yoga change la vie sont les élèves. Ils en parlent assez vite, dès qu'ils ressentent un bien-être, une autre présence à eux-mêmes, et elle-même, simplement la joie de vivre. J'avais d'ailleurs enregistré un épisode du podcast Just in Time, qui a dédié toute une série au yoga et à la méditation, et j'ai enregistré avec des pratiquants de collège ce qu'ils disaient sur leur pratique à la fin de l'année. Et c'est merveilleux, il y a un élève qui dit d'ailleurs « Hablo con mi cuerpo y eso es increíble », je parle avec mon corps et c'est quelque chose d'incroyable. C'est l'épisode 150, qui est en espagnol pour cet épisode, puisque l'enseignement se fait dans une école au Mexique. Cela ne signifie pas, bien sûr, que toutes les résistances aient sauté. Les professeurs eux-mêmes et les professeurs elles-mêmes sont engoncés dans des habits qui ne leur vont plus et malheureux dans leur vie et leur établissement, où chaque année on leur ajoute des élèves, des responsabilités et d'autres délicieux détails ont tendance à rejeter les pratiques qui redonnent le sourire. Mais l'espoir est là, c'est la raison pour laquelle chaque semaine j'y retourne, poussée par la conviction. Iyengar disait « Tous les enfants devraient faire du yoga afin qu'ils puissent comprendre leur corps et leur esprit. » Je répète sans cesse que je ne pratique pas et n'enseigne pas le yoga cosmétique, ce n'est pas une boutade. Il est essentiel pour moi, effectivement, de réussir à montrer la dimension thérapeutique de la pratique. C'est pour cela que le yoga est une pratique pour tous et pour toutes. Et Stéphane le dit d'ailleurs dans l'entretien que vous allez écouter. Il le dit, on peut pratiquer le yoga dans un fauteuil roulant. Il suffit d'avoir un corps, effectivement, et le désir de le transformer en un temple de l'âme. Stéphane Haskell a vécu des moments de désespoir profond, qui d'ailleurs ce sont ces moments qui l'ont mené vers cette recherche. Pourtant, il était plus que sceptique, il le dit d'ailleurs, vous allez entendre sa voix qui le dit. Il a le courage d'ailleurs d'en parler dans son film, de dépasser cette pudeur qui nous empêche souvent de partager des choses importantes. Et personnellement, je comprends ce qu'il a traversé car je goûte chaque jour les bienfaits de cette pratique qui transforme tous les rapports que nous avons avec la vie. Son film me touche, je décide de le contacter personnellement. En plus, sa chienne Electra, qui apparaît dans le film et qu'on peut voir ici, est la copie de ma chienne adoptée l'an dernier. Je l'ai retrouvée attachée sous la pluie à un poteau, une chaîne autour du cou, très malmenée. Elle est restée un mois chez le vétérinaire et je l'ai appelée Alice Miller parce qu'à l'époque je donnais un séminaire l'année dernière sur un livre d'Alice Miller. Et c'est très touchant de voir comment Stéphane raconte quel a été le cheminement de sa chienne Electra, qui a été, on le dit, une passeuse. Stéphane emploie plusieurs fois le mot passeur et vous verrez que ce n'est pas une notion seconde. Il me répond immédiatement, voilà Stéphane, très simple, qui m'a répondu tout de suite, qui n'a pas attendu, qui n'a pas cherché à savoir qui j'étais, il m'a répondu tout simplement et je lui ai proposé de nous parler. Je tiens à dire qu'il n'y a eu aucune préparation de cet entretien. Je ne lui ai pas expliqué dans l'entretien quelles ont été les raisons qui m'ont poussé à choisir la voie du yoga à la place des médicaments, mais c'était dit dans le texte que j'ai écrit dans le blog Just in Time. C'est une sorte de ce choix qui est un choix de choisir une voie méditative à la place des médicaments. Il en parle aussi d'ailleurs quand il parle des antidépresseurs pour me soigner lorsque la vie m'a invité à choisir un chemin et à en laisser un autre derrière moi. Et c'est aussi ce que lui dit d'ailleurs son enseignante Teresa lorsqu'elle parle de la pratique régénératrice du yoga, de la méditation, sans oublier que le yoga ne protège pas de tout, bien évidemment. Nous sommes tous des êtres vivants ayant une expérience spirituelle qui requiert un bouquet contrastant de joie et de souffrance. Et donc, ce fut aujourd'hui l'occasion d'un entretien très agréable d'une trentaine de minutes avec Stéphane Haskell, grâce aux nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, dans ce cadre précis, je les célèbre, car il aurait été impossible d'avoir cette conversation, mis à part le téléphone, qui aurait été bien sûr un moyen, mais on n'aurait pas pu enregistrer cette conversation. Et depuis cet entretien, de cet entretien surgissent d'autres germes, comme par exemple la possibilité de recevoir Stéphane Haskell ici au Mexique et d'aller dans une prison pour montrer son film et de répéter peut-être l'expérience de 2019. Voilà une jolie connexion que ce film qui m'est parvenu en soir de décembre 2023 nous a offert. Je ressens beaucoup de gratitude et beaucoup d'inspiration, car ce chemin parfois est très solitaire, non seulement en tant que professeur de yoga, aussi en tant que psychanalyste, c'est un chemin très solitaire, et lorsqu'on rencontre un être qui comprend les choses que l'on a vécues, l'on ressent une énergie sublime, comme cette énergie qui monte lorsqu'on rentre dans la pratique du yoga. Merci beaucoup Stéphane, voici l'entretien dans son intégralité. Bonjour, bonsoir. Le podcast Just in Time a été créé en 2020. On arrive aux 4 années. J'ai voulu, pendant la pandémie, réaliser un petit tour de magie et d'inviter d'autres personnes venant de différents horizons. Me faisait plaisir. Donc je sortais, on s'enregistrait, on parlait. Et au fur et à mesure, c'est devenu le podcast Just in Time. Je m'appelle Mélanie Berthaud, je suis psychanalyste, professeure de yoga et méditation, enseignante, hypnothérapeute au Mexique. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir un nouvel épisode du podcast Just in Time. Merci beaucoup pour l'écoute, merci pour tout le soutien depuis 4 ans. Bonsoir Stéphane, c'est bonsoir pour vous. Ici,
ouais, c'est noir. Là.
Une... Oui, c'est ça. Quand je vous proposais d'aller vous promener, oui, c'est pas du tout attrayant en fait.
Pas loin de la plage là, donc ça aurait pu être sympa, mais alors là, c'est nuit noire.
Oui, d'accord. Bon, ici, il fait pas encore trop froid, donc on est à Mexico.
Ouais, je connais. Je vais y aller d'ailleurs, c'est fin janvier, c'est drôle.
Ah bon?
Ouais, j'ai des amis qui sont sur la côte pacifique et je devais peut-être aller les voir. Et là, je peux pas y aller. Je devais partir fin janvier et y passer 15 jours.
Ah, peut-être bientôt alors, c'est peut-être c'est repoussé ou c'est annulé?
Là, c'est annulé, mais je pense que je vais, à un moment ou à un autre, je passerai par Mexico et j'irai les voir.
D'accord. Bon, alors donc
Voilà.
c'est un premier entretien
Ouais.
grâce aux technologies, aux nouvelles technologies. Ça me fait très plaisir de parler avec vous parce que, en fait, j'ai été complètement emportée par le documentaire, votre film, Debout,
Ouais.
que j'ai découvert vraiment par hasard. Comme je vous dis, je ne crois pas au hasard.
Ouais, bien sûr, oui,
Et
bien sûr, ouais.
j'étais très touchée. Je vous ai écrit tout de suite. Hein, ça a été extrêmement spontané. Je n'ai pas du tout attendu. D'abord, je me suis dit, bon, est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux? Je vous ai trouvé.
Oui, j'ai encore du mal, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le film, puis le livre, et puis les autres livres, bon, oui, donc on a été un peu obligé de communiquer sur les réseaux, donc je le fais un minimum. Voilà.
Oui. Alors, merci, merci pour le temps que vous
De rien.
prenez pour qu'on se parle. Vous avez déjà lu l'article que j'ai écrit à brûle-pourpoint,
Ouais.
juste après avoir fini debout. Alors, je
Ouais.
tiens à vous dire que je suis debout actuellement, je travaille debout.
D'accord.
Et ce n'est pas un hasard non plus. Bah, je travaille debout depuis, en fait, pendant la pandémie, je me suis rendu compte que rester assise aussi longtemps, ce n'était pas possible pour moi. Ayant été enseignante pendant très longtemps et puis professeure de yoga, donc je me suis mise debout, j'ai inventé une sorte de dispositif. Et après, j'ai lu le livre de Marie-Pierre Lilinseger, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle
Non.
Debout. Et
D'accord.
donc Marie-Pierre, qui d'ailleurs avec laquelle je me suis entretenue dans le cadre d'un podcast, je vous l'enverrai si vous
Ouais.
voulez, dit justement, elle préconise la position debout pour travailler. Et c'est
D'accord.
donc je me suis acheté, je vais vous montrer. Ce bureau-là, qui est un bureau qui monte et qui descend, voilà.
D'accord, oui,
Et
je
qui
vois
est une
très bien.
petite merveille parce que, voilà, je l'ai juste à ma hauteur.
Oui, moi j'aime bien. Il y a aussi un espèce de siège où on met les genoux en avant. Comme ça, on a le dos comme ça, qui est pas mal. On a la prod où je vais bosser de temps en temps. C'est pas mal, ça aussi.
Comme un siège de méditation, un petit peu?
Un peu, oui, c'est ça, mais surélevé. Donc, on a les jambes, les genoux, les genoux posés sur des trucs surélevés et les fesses sur un petit
Oui,
dossier. Ouais,
oui.
c'est pas grave.
D'accord, très bien. Stéphane, on m'entend bien parce que j'ai un joli micro là. Est-ce qu'on entend bien ma voix?
Là, on entend très bien.
Oui?
Ouais.
Ok, très bien. Bon, alors en fait, au départ, le podcast, c'est une conversation très, très spontanée, comme tout le reste, où on marche, on échange ce qu'on a envie d'échanger ensemble. Moi, ce qui m'intéressait, bon, déjà, c'est de parler de votre processus du film. Vous dites quand même beaucoup de choses déjà dans le film. Vous partagez, vous êtes très généreux dans ce que vous dites. Et j'aimerais savoir où vous en êtes depuis déjà pour faire une sorte de rétro, un regard en rétro d'aujourd'hui vers l'arrière. Où est-ce que vous en êtes depuis ce film? Est-ce que ce film a changé quelque chose dans votre vie, ce désir de partager ce qui vous était arrivé et votre expérience du yoga?
Ah oui, parce que en fait, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, quand j'ai fait cette promesse à cette professeure de yoga que j'ai rencontrée, qui m'a aidé à remarcher et à découvrir le yoga, quand je lui ai fait la promesse à la fin du cycle de 3 ans qu'elle m'avait demandé de suivre, voilà, je lui ai dit, je vais
Teresa,
lancer.
n'est-ce pas?
Ouais, je lui ai dit, écoute, voilà, si je reprends mon métier, si je peux marcher, je te promets, je vais faire un film sur le yoga. Donc en fait, je savais pas ce que j'allais faire à l'époque, j'avais pas travaillé depuis un moment. Je ne savais pas ce que j'allais faire sur le yoga. Tout ce que je savais, c'est que je voulais pas faire un film sur les origines du yoga, sur la philosophie du yoga. Je voulais pas faire un truc où voilà, le yoga vient d'ici, vient de là. Je voulais éviter aussi un peu les clichés, les ashrams, mettre des mots que les gens qui font un peu peur, genre chakra, genre machin, etc. Il fallait que ce soit un film à niveau humain. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, j'ai commencé à tourner le film et c'était sur des gens, voilà, qui s'étaient sortis vraiment de situations terribles, que ce soit des incarcérations physiques, prison, maladie, etc. Et un jour, je revenais avec mes images et un jour, un des producteurs me dit, c'est très bien, c'est très beau, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas de fil narratif. Et je réfléchissais, je lui dis, bah, je sais pas comment on peut faire, je vais réécrire. Elle me dit, non, 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 faut que tu mettes ton histoire. Parce que j'avais pas mis mon histoire au départ, parce que par pudeur, par plein de choses. Puis j'étais plus confortable derrière la caméra. Et donc voilà, j'ai commencé à remettre mon histoire. Et en fait, entre mettant mon histoire dans le film et rencontrant des gens absolument, ce que j'appelle des passeurs, ça a été mes gourous. Voilà, je pense que ça a été mes professeurs, autant que les professeurs qui m'ont tout enseigné. C'est-à-dire que rencontrer un prisonnier derrière les barreaux qui va être exécuté et qui me dit, voilà, grâce au yoga, je vais mourir, mais je vais mourir en homme libre, c'est une leçon pour moi. Et donc ce film a continué à accompagner ma guérison. Et puis surtout, je voulais, voilà, rencontrer ces gens que j'appelle des passeurs. Et c'est ce que m'avait demandé la professeure. Elle m'a dit, si tu pratiques, et que tu veux continuer à pratiquer le yoga, il faut que tu fasses deux choses. D'ailleurs, tu pratiques tout le temps, tous les jours, et que tu le transmettes.
Oui,
Et comme moi, je n'ai pas
bien
la
sûr.
vocation d'être prof, je me suis dit, ben, je vais faire un film, ça sera ma manière de transmettre. En fait. Et ce film a fait entièrement partie de mon chemin de guérison.
Oui,
Complètement.
je comprends. D'ailleurs,
Voilà,
les
ça a été.
personnes qui voit ce film, qui regarde ce film, on a lu mon article et après on m'a dit, ah, justement, je suis allée regarder ce film et tout le monde répond la même chose. C'est-à-dire, j'ai envie d'en faire, ça me donne envie d'en faire.
Oui, c'est drôle parce que je dis toujours, j'ai beaucoup accompagné le film en Europe parce qu'il est sorti dans 8 pays. Et je sais toujours, je disais, moi, je ne vous vends pas le yoga parce que je ne suis pas prof, j'ai pas des tapis à vendre de yoga, j'ai pas des cours de yoga à vendre. Mais cette pratique m'a tellement bluffé. En fait, j'ai fait ce film pour moi quand je ne connaissais rien du tout au yoga et que ça ne m'intéressait pas. Voilà. Et je me suis dit, s'il faut le faire avec le cœur, parler au cœur des gens. Et beaucoup, beaucoup de personnes, à travers les avant-premières que j'ai faites, les projections, les débats, les conférences, m'ont dit, mais c'est merci parce qu'on s'est mis au yoga. Et beaucoup de gens qui avaient des problèmes de dos ou d'autres, des dépressions ou autres, voilà, m'ont dit, on s'est mis au yoga. Et ça a même, et là, c'est là où je trouve que je suis vraiment, ça m'a vraiment rempli de plein de choses parce que beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont dit grâce à vous, voilà, on a trouvé notre voie et on a envie d'enseigner le yoga. Parce qu'il fallait
C'est ça.
sortir des clichés qu'on nous bassine en disant le yoga, c'est un truc de bobo, c'est un truc à la mode, c'est machin. Ça l'est.
Bien
Parce que
sûr.
nous, tantôt, on se l'est accaparé et qu'on en a fait un instrument commercial. Mais la pratique telle qu'elle, elle existe depuis des siècles. Et j'allais dire, elle s'en fout, la pratique. Le yoga reste
Absolument.
le yoga. Donc, vous en faites ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais moi, je me suis pris des scuds, hein, je me suis pris des trucs pas marrants, on m'a beaucoup critiqué parce qu'ils me disent, vous faites une apologie BA du yoga. Je dis oui, mais si vous savez, si ça aide des êtres qui sont incarcérés, des enfants qui souffrent, qui sont très violents, qui ont des dépressions, si ça les aide à sortir de ces états-là, à la messe est dite, quoi. C'est vraiment une pratique qu'il faut pouvoir transmettre, donner aux enfants, donner aux gens qui vont mal et comprendre qu'on peut faire du yoga en fauteuil roulant.
Absolument. Et sur une chaise et jusqu'à 99 ans. Bien sûr. Alors justement, vous êtes bien placé pour le faire parce que vous avez vous-même vécu une transformation et on peut dire une salvation à travers grâce au yoga. Pour celles et ceux qui n'ont pas, et d'ailleurs, bon, je pourrais vous parler de mon cas aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu debout, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Stéphane, comment est-ce que le yoga est arrivé. Bon, d'abord, peut-être ce qui vous est arrivé avant, si vous avez envie de revenir vers ce moment-là, et comment le yoga est apparu dans votre vie?
Bah, pour vous faire rapide l'histoire, oui, moi j'ai eu donc une opération il y a presque 10 ans maintenant qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval. C'est une hernie discale paralysante, pour faire simple. J'ai opéré en urgence, je me réveille, on me dit on ne sait pas si vous allez remarcher. Voilà, après il y a un parcours du combattant, rééducation, toutes les choses classiques et bombardé, mais alors bombardé de médocs, codéine, morphine, enfin, toutes les saloperies qui existent. Hein. Et un jour, et je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est étonnante, et un jour, j'en pouvais plus. Et pour là, je crois sincèrement, la première fois de ma vie, je me suis mis à prier et j'ai demandé de l'aide. Et c'est drôle parce que l'aide, elle vient toujours de là où vous ne l'attendez pas. Et ma cousine américaine passe à Paris, déboule, j'étais vraiment sur un lit allongé, j'étais retourné chez ma mère, enfin bon, bref, c'était vraiment la cata. Et elle me dit, j'ai quelqu'un à te présenter, elle me présente cette femme. très charismatique, qui s'appelle Thérèse, qui est moitié norvégienne, moitié suédoise et moitié américaine. Et bref, on parle, elle me dit, voilà, j'ai soigné, j'ai aidé des cas comme le tien par la pratique du yoga. Et je l'ai regardée, et je me suis dit, elle est dingue. Elle est complètement
Vous étiez
azimutée.
sceptique.
C'est même plus que sceptique. Je lui dis, elle est folle. Je lui dis, mais je peux à peine marcher, j'ai mal partout, comment veux-tu que je pratique un truc? Pour moi, c'était, vous avez les préjugés, ils sont forts, hein, ils sont puissants, parce que pour moi, c'était plus une gymnastique, hein, c'est de rester ça. J'avais pas d'autres jugements. Elle réussit à me convaincre. Et quelques mois plus tard, je suis donc parti en Allemagne. Et là, elle m'a dit, ce que tu vas faire, c'est simple. Est-ce que tu es prêt à donner 3 ans de ta vie à t'investir? Sinon, ça ne vaut pas la peine. Et vous savez, il y a ce moment-là, il y a ce moment de tel désespoir que je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et je suis rentré dans, en fait, une formation de professeur de yoga sans le savoir. Mais ce qui était formidable, c'est qu'elle m'a demandé d'apprendre. J'ai étudié l'anatomie du corps humain. J'ai plongé dans les fondamentaux, les Yoga Sutras, Bhagavad Gita. On a étudié les Védas. C'était passionnant. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé le langage que je cherche depuis tout le temps, depuis toujours. Et donc, j'ai plongé dans la pratique avec beaucoup de résistance, avec beaucoup de peur. J'en ai eu ras-le-bol. Je lui ai balancé mon tapis à la figure. J'ai dit, ça marche pas. Enfin, tout ce qui est normal parce que le yoga, j'allais dire, c'est comme une machine à laver, ça essorage, quoi. Ça essore tout. Tout remonte à la surface. Le bien, le mal, les colères, les joies. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Et il fallait ça. Il fallait ça pour que je puisse me reconstruire. Et ça a été une longue période de reconstruction. Et c'est pour ça, dans le film Debout, à un moment, elle dit, le yoga, c'est une psychologie du corps et du mental. Et c'est vrai.
Absolument, oui,
Et j'avais
bien sûr.
jamais, dans mon éducation, je faisais du sport, je faisais du ski, du tennis, du windsurf. Je faisais tout, j'allais dire, dans la compétition, dans la force. Et il y a un prisonnier à San Quentin, aux États-Unis, qui dit cette belle phrase et il dit, j'ai compris grâce au yoga que la seule compétition que j'avais, c'était avec moi-même. Et c'est vrai. Et j'ai appris à lâcher, à faire confiance, et puis surtout, je me suis donné une discipline et j'ai pratiqué même 10 minutes tous les jours.
Et vous
Donc ça,
continuez.
je continue, ouais, tous les matins.
Oui. Et qu'est-ce
Voilà.
que ça a changé après autour de vous dans votre profession, dans votre vie quotidienne? Bon, c'est une renaissance.
Mais je pense sincèrement, et c'est pas pour dire oui, c'est magique, c'est pas magique, c'est une discipline, c'est une pratique très, très, très intéressante et profonde. Ça a changé, en fait, ça a fait une chose étonnante, c'est que ça a changé mon regard sur moi déjà, parce que c'est une forme d'introspection très puissante, d'aller puiser des ressources qu'on ne connaît pas, d'aller vraiment faire une étude presque anatomique de notre corps et de nos corps, parce qu'on a plusieurs corps, on a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, on a d'autres corps, même des corps plus subtils, comme on apprend en yoga. Et ça m'a appris à avoir un autre regard sur le monde et les autres, en fait, c'est surtout ça. J'étais quelqu'un qui était très en colère. J'étais...
Vous avez lâché votre colère?
Ouais, j'ai lâché ma colère, ça a mis beaucoup de temps. Et puis il y avait aussi une chose, c'est que j'avais des douleurs chroniques 24 heures sur 24, donc ça a continué à attiser ma colère. Et je vois que surtout, par la pratique, par l'apprentissage de la respiration, des techniques de pranayama, j'ai appris à mettre, j'allais dire, de la douceur, du froid sur ce qui était enflammé. Et il n'y avait pas que le corps qui était enflammé. Parce que j'avais une sorte de colère, d'injustice, pourquoi moi, qu'ont légitimement tous les gens qui traversent des maladies graves. On se dit, mais pourquoi ça me tombe dessus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Blablabla, et pour faire taire ce mental qui fracasse, je suis convaincu que le yoga est une des, j'allais dire, une des armes les plus puissantes, puisqu'en fait, le but ultime du yoga, c'est d'arriver à la méditation. Moi, je médite aujourd'hui, mais j'en étais incapable, mais c'est grâce au yoga. Parce qu'il me fallait, j'allais dire, le geste, la respiration, pour calmer le hamster là-haut.
Bien sûr, et puis le corps, en fait, l'idée du yoga, c'est de préparer le corps pour pouvoir rester assis pendant des heures à méditer, c'est-à-dire une colonne vertébrale forte, des muscles à leur place, voilà, c'est le seul but d'ailleurs.
C'était
C'est
le
pour ça
but.
que, bon, les personnes, ce que je dis toujours aux élèves de yoga, aux pratiquants, c'est demander à votre professeur s'il médite ou si elle médite, si c'est une pratique quotidienne, vous saurez. Parce que c'est
Oui.
vrai, quoi. Maintenant, il y a tellement de tout le monde est professeur de yoga aujourd'hui. Ici, au Mexique, c'est un boom depuis des années. Il y a des formations tous les 15 jours. Enfin, c'est.
Je vois, j'ai une amie d'amis d'ailleurs qui est partie sur la côte est du la côte Pacifique au Mexique, travaille dans un centre et on en a beaucoup parlé parce que quand elle a commencé, elle était jeune dans la pratique et on a beaucoup échangé. Et elle avait lu le livre que j'avais écrit à l'époque qui est sorti avec le film qui s'appelle Respire. Je raconte mon évolution et comment j'apprends. Et elle m'a dit que ça l'avait vachement aidé pour éviter l'écueil de, j'allais dire, de se regarder dans un miroir parce qu'on fait une posture sur la tête. C'est pas ça le
C'est
but
ça.
du jeu. On s'en fout.
On s'en
C'est
fout.
bien rentrer dans la posture et bien en sortir. Quelle que soit la posture, moi je sais qu'aujourd'hui, je fais des postures. Honnêtement, je pensais pas que je pourrais, quoi. C'était fou. Je voyais les gens faire des postures. Je me dis, mais. Et c'est ça un peu l'écueil, c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux, franchement, mais c'est pas possible, quoi. Il y a des non-stop, des espèces de advertising comme ça, parce que les filles font des postures pas possibles. Alors oui, et ça un peu, bah, ça effraie, ça dégoûte, parce qu'on se dit, moi, je peux pas faire
Oui,
ça. Moi, j'ai entendu des
ça
femmes,
dessert, oui.
ben ouais, me dire, mais je vais pas faire du yoga, je serais incapable de faire ça. Et je leur dis à chaque fois, je dis, mais moi, je pouvais pas me baisser quand j'ai commencé le yoga. Je ne pouvais pas. Il y a des gens, tu l'as vu dans le film, qui ont la sclérose en plaques, qui sont paralysés jusque-là, mais ils font du yoga. Et encore une fois, le
C'est ça.
témoignage qui a la sclérose est magnifique parce qu'il dit à un moment, tu sais, grâce au yoga, j'ai appris à accepter la maladie et plus à la combattre. Et moi, ça a été une des
C'est ça.
clés de ma guérison. C'est vraiment ça.
Absolument. Oui, parce qu'en fait, la maladie surgit pour nous enseigner quelque chose et on ne tombe pas malade par hasard. Et
Ouais,
nous dire quelque chose.
je vais te dire. Quand j'ai fait le film, je me suis dit, j'espère que justement certaines personnes, parce que pour moi, je suis vraiment dans la médecine préventive, peuvent aller vers le yoga parce que ça va leur éviter peut-être des cas graves comme le mien, des cas moins graves, mais j'ai envie de dire, mais allez-y, ça peut être autre chose que le yoga, c'est pas très grave. Enfin, mais faites une pratique qui vous fait du bien pour commencer, parce que le corps a une telle intelligence et une telle mémoire qu'un jour ou l'autre, si on n'y fait pas gaffe, on va se le prendre dans la gueule. Le corps, il va dire stop.
C'est ça.
Et moi, ce qui s'est passé, mon corps a dit stop, 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 stop. Et ça a été stop brutal, parce qu'un syndrome, ce qu'on appelle un
Oui.
syndrome cheval, désolé pour le détail, mais tout d'un coup, tu es là, tu es chez toi, et tout d'un coup, tu pisses et tu te chies dessus. Donc, ça veut dire quelque
Oui.
chose. Et
Bien
ça,
sûr.
ce message, il est fort. Et donc, je dis souvent aux gens, évitez. Si vous pouvez éviter, attendez pas que la maladie vous rattrape pour vous dire, fais attention, va dans telle direction plus que telle autre. Voilà, si on pouvait éviter. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec les enfants. Faut leur donner ça. Parce que c'est là que commencent les problèmes, justement, de dépression, les problèmes de dos, les scolioses. C'est dans l'enfance et dans l'adolescence. Moi, j'ai vu des gosses
Exactement.
qui pratiquaient et du coup me disaient, enfin tu l'as vu dans le film, qui disent, ah ben moi, agacé ou m'énerver, j'allais taper, maintenant je laisse couler. Ah ben bravo.
Oui, c'est
Voilà.
magnifique, c'est magnifique.
C'est ça l'idée.
Tu sais, je le vois beaucoup à l'école. J'ai enseigné yoga pendant des années, et là aujourd'hui, comme je le dis dans l'article, je continue dans une autre école. Mais ce que je vois beaucoup et ce qui est très inquiétant, ce sont que les enfants aujourd'hui souffrent d'anxiété de plus en plus jeunes.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas tout à fait, on n'a peut-être pas tout à fait le même âge, mais presque, je pense. On ne connaissait pas, nous, l'anxiété tout jeune, à 8 ans. Un enfant qui était anxieux à 8 ans, c'était très rare. Et aujourd'hui, les enfants de 8 ans, moi, j'enseigne depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 14, les enfants ne dorment pas, ils souffrent d'insomnie. Je demande toujours en début de cours. Ils sont 80, on demande, maintenant j'ai deux coéquipière, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles parce que seul avec 80, c'était pas évident.
Imagine.
Et donc je leur demande, alors, qui est-ce qui souffre? Qui est-ce qui a de l'insomnie ici? Qui est-ce qui souffre d'anxiété? Il lève la main. Il n'y en a pas un, il y en a au moins une vingtaine sur 80. C'est très, très inquiétant. Et donc, à la fin, au début, évidemment, c'est... Oui.
Non, pardon, non, non,
Pardon?
je te dis, écoute, non, je suis pas surpris.
C'est terrible. Au début, évidemment, ils sont, comme toutes les autres personnes, ils sont sceptiques. Mais quand ils commencent à sentir, il et elle commencent à sentir l'effet dans le corps, c'est là, en fait. Donc, ça, on ne peut pas faire de prosélytisme avec le yoga. Il faut le sentir.
Oui, puis comme tu dis, les enfants, ils le sentent tout de suite, c'est instantané, c'est des éponges, le corps, il est complètement réceptif et ouvert. Et donc, il n'y a pas de triche. Des gens, ils te disent,
C'est
c'est de la
ça.
merde, gars, ou ils adorent. Et généralement, c'est vrai
C'est ça.
que, en plus, comme il y a un côté amusant et ludique dans le yoga, on va faire la posture de l'arbre, on va faire le lion, on va rugir, on va faire des choses. Donc, ils se disent, ah, ben, c'est sympathique. Et puis, il y a une chose qui est étonnante, c'est que très vite, et moi, je le vois même pour les adultes, ça crée le lien, puisqu'on est dans la même énergie, la même vibration. Et donc, cette vibration, elle est entre les êtres. Et quand on pratique, l'énergie monte dans le corps, et donc elle s'étend, et elle va toucher notre voisin, notre voisine. Et donc, il y a, pas forcément dans un cours, tu vas rentrer et sortir comme ça, mais dans les écoles, je vois les enfants, du coup, ils ont, bah, ça les calme, et ça les calme entre eux. Donc, ça donne cette belle, ce lien. Et c'est ce qui fait que les enfants, moi, je trouve, souvent, et adolescents sont de plus en plus déprimés, violents, etc. C'est qu'il y a ce manque de lien. Et comme il y a ce
La
putain de truc
solitude.
sur les réseaux sociaux où on est dans la comparaison et machin et truc, et l'autre il est plus beau, et l'autre il a ce que j'ai pas, etc. C'est super violent, c'est super dur. Là, j'étais au Népal pendant un mois et j'en parlais avec un homme, un guérisseur avec qui je faisais une formation. Et il disait, moi je vois de plus en plus de jeunes prendre des antidépresseurs, très jeunes.
Oui.
Et comme ils vont faire l'alcool, la drogue et tout ça. Mais c'est vrai que
C'est
c'est
ça.
une des solutions. Hein. Et le yoga, la médite, enfin l'art-thérapie, on fait tout ce qui aide les enfants à s'exprimer et à s'exprimer par l'art, par le physique, au lieu d'aller se retrancher dans justement dans des espèces de, comment dire, de psychoses qui naissent. Et après, je te dis pas, alors quand ça explose et qu'ils sont adolescents, alors là, c'est boum.
Ah oui,
C'est très.
absolument, bien sûr. Alors, la solution que moi j'ai trouvée, c'est d'aller le proposer aux écoles. Et bon, il y a énormément de difficultés. Hein. Moi aussi, je me suis pris des scuds, comme tu disais tout à l'heure, et je m'en prends encore. Mais bon, il faut, voilà, quand on est convaincu et quand on est passé par là, c'est un chemin. C'est un chemin.
Bien sûr.
Finalement, tu disais que tu avais eu affaire à des passeurs, mais toi-même, tu es devenu passeur.
Oui, c'était un peu l'idée au départ. D'ailleurs, quand ma prof m'a dit, voilà, si tu transmets pas, c'est pas la peine. Et donc, c'est vrai que mon métier, c'est celui-ci. Donc, c'est vrai que ça a été l'occasion rêvée, c'était d'être, voilà, de continuer à continuer. Et ce qui a été merveilleux, c'est d'avoir pu, pardon, accompagner le film dans des
Oui.
projections. Et je continue. Il y a 2 mois, j'étais à la prison de la santé où j'ai montré le film. L'année d'avant, j'avais été à la maison d'arrêt de Villepinte à côté de Paris, montré le film devant 200 détenus. Je l'ai fait dans une école. Donc c'est ça, c'est l'idée, c'est de continuer l'action, pas s'arrêter. Et c'est pour ça que je suis content que le film ait plusieurs vies en fait finalement, et que justement on puisse en parler, qu'on puisse échanger dessus. J'aurais aimé qui soit plus montré dans les écoles,
Oui.
voilà, à titre totalement éducatif, parce que, mais c'est compliqué souvent, hein, parce que tu sais, il y a encore pas mal de résistance. Si c'est pas des professeurs comme toi qui introduisaient la pratique au sein même de l'école où vous êtes, c'est-à-dire par l'intérieur, c'est encore compliqué. Alors il y a des régions en France, des départements où ça se fait assez facilement. Et bizarrement, d'autres départements où c'est niette, où c'est vraiment
Terrible.
c'est le yoga, ça
Oui.
vient de... C'est bizarre. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, en France, je ne sais pas comment vous êtes au Canada, mais moi, je sais qu'au... Enfin, je ne suis pas allé au Canada depuis
Au
longtemps, mais
Mexique.
au Mexique, pardon, c'est vrai que tu es canadienne, au Mexique.
Non, je suis française.
Quoi, tu étais canadienne?
Mais
J'avais
non,
pas.
pourquoi?
Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a pris comme ça.
Mais non, je suis du
Ah non,
sud,
mais non, mais.
comme tu disais que tu étais dans le sud, je suis du sud de la
Ah
France.
oui. Et toi, par exemple, au Canada, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, t'arrives, le yoga, c'est un art de vie qui est partout. Il n'y a aucun problème.
Bien sûr,
Tu
oui.
vois, en France, on est quand même aujourd'hui, Il y a eu un sondage l'année dernière, on est 7 millions à pratiquer quand même. C'est énorme. Donc, tant mieux, plus ça s'étend. Moi, je trouve, voilà, ça va continuer à s'étendre et à toucher. Voilà, il faut que ça aille vraiment toucher les écoles. Et comme je dis, il y a beaucoup de profs très courageux qui vont aussi, qui l'introduisent en prison. Je suis convaincu
Oui.
aussi, j'ai eu une histoire, on n'a pas pu le filmer, mais d'un prisonnier justement qui a pris le yoga en prison, qui est sorti en, je crois, liberté conditionnelle ou provisoire, qui avait un bracelet électronique, qui s'est mis à pratiquer en dehors de la prison, qui est devenu prof de yoga, etc. Donc ça, je veux dire, c'est peut-être aussi un outil de réinsertion puissant.
Bien sûr. D'ailleurs, je vais te proposer très clairement d'organiser ça ici, parce que on dit donc au Canada, parce que en fait, comme je le raconte dans l'article, je suis allée faire cet enseignement donc devant de très nombreux hommes, seuls en train de pratiquer, et
Ouais.
j'ai eu les démonstrations de reconnaissance. J'ai jamais reçu autant d'amour de ma vie. À la fin, ils pleuraient, hein, ils venaient me voir en pleurant, en disant merci, merci, et c'était vraiment respectueux. C'était pas du tout. C'était vraiment parce qu'ils avaient vécu quelque chose de fort. Et donc, je pense qu'on pourrait organiser tout à fait ça, parce que la personne qui a amené le yoga au Mexique, elle s'appelle Anne. Et
Ouais.
avec elle, on y est allé. Elle est toujours très, très impliquée là-dedans, Anne Moxie. Et je connais d'ailleurs justement un professeur de yoga qui était un ancien prisonnier qui s'appelle Freddy, qui enseigne, qui continue dans cette voie. Donc ici, c'est très puissant parce que bon, les conditions. Dans les prisons, tu pourrais imaginer qu'au Mexique, c'est terrible. Et ici, la présomption d'innocence n'existe pas.
D'accord.
Voilà. Donc, on peut arriver en prison alors qu'on est complètement innocent et y rester longtemps. Donc, si tu as envie, on organise quelque chose dans les prochaines années, dans les prochains mois, les prochaines années. C'est tout à fait possible. Il y a vraiment un besoin.
Un jour, je sais que là, si je vais voir ses amis, je m'arrêterai à Mexico quelques jours. Et on peut
On peut
organiser.
organiser ça?
Moi, je
Oui,
baragouine, trois mois
on en
d'Espagne.
parlera.
On peut tenter le choc, ouais, bien sûr.
Et le film est-il sous-titré en espagnol? Je me posais la question.
Non, il n'a pas fait son
Ce
chemin
serait
avec
pas
l'Amérique.
mal.
Il n'a pas fait
Ok,
son chemin
bon,
avec
on en parlera.
l'Amérique. Si tu as avec des contacts, vas-y, parce que moi, je suis ravi que le film voyage. Je sais qu'il a été au
Oui.
Brésil. Il a été au Brésil. Et il n'est pas rentré sur le marché américain. Et je suis très étonné. Moi, je suis moitié américain. Et je suis étonné parce que, quand même, il avait le potentiel. Pour plein de raisons aussi sociales et de langue, etc. Donc, mais oui, il y avait en espagnol, ce serait
Passe
génial.
encore.
Voilà, on va dire trois
Oui,
ans.
ben, exactement. Bon, ça, on en reparlera hors antenne de tout ça, mais je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, moi, ce que je peux faire tout de suite et ce que je vais faire, c'est montrer ton film aux enfants, même si il est sous-titré en anglais ou pas, je ne me souviens plus.
Y a une version sous-titrée.
Ben, ça, il n'y a pas de problème, puisque c'est une université, une école britannique.
D'accord.
Donc,
Très bien.
ça, je vais le faire tout de suite.
Bien
Il n'y a
sûr.
aucun problème. Et je voulais te poser la question, Stéphane, professionnellement, tu as changé quelque chose ou tu continues, tu es donc photographe, cinéaste,
Alors, je fais
écrivain?
toujours, je fais moins de photos, je fais toujours des films, toujours des réalisations.
Oui.
Et j'ai surtout commencé, ce qui était amusant, c'est qu'on est venu me chercher pour le premier livre que j'ai écrit, Respire, où je raconte mon histoire en détail. Et donc, du coup, je me suis, j'allais dire, pris au jeu. J'ai écrit un livre ensuite qui était un guide pratique de yoga sur des postures, 108 postures de yoga accompagnées de citations qui, moi, m'ont aidé dans ma guérison, qui s'appelle Yoga au fil
Ah,
des jours.
d'accord.
Après, je me suis
Ok,
intéressé
je vais
à
regarder.
faire Yoga au fil des jours. Il était paru chez Michel Lafon, maintenant il est chez Marabout. Ensuite, je me suis intéressé au son parce que, bon, comme tu sais, évidemment, entre le chant des mantras, les bols, les gongs, enfin, je me suis intéressé à tout ça, donc j'ai écrit un livre qui s'appelait Écoute. Donc, si tu veux, ça a ouvert vraiment une voie et une curiosité que j'ai toujours eue, mais que le yoga, c'est vraiment le déclencheur. Et le dernier que j'ai écrit, c'était, je sais pas si tu te rappelles, mais dans le film, à un moment, il y a une chienne assez âgée. Et cette
Bien
chienne,
sûr, parce que c'est la copie de la mienne.
on a parlé d'habitude, tu m'avais. Et
Oui.
figure-toi que je me suis donc penché sur la communication animale, interespèce. Et donc, j'ai écrit un livre où je raconte mon histoire avec cette chienne qui est rentrée dans ma vie 3 mois avant mes opérations et qui m'a sauvé la vie et qui m'a accompagné pendant presque 13 ans. Et l'histoire est folle. et surtout qu'elle m'a accompagné quand j'ai fini le film, c'est-à-dire vraiment fini le film, elle est morte à ce moment-là. Comme si elle m'avait accompagné justement de vraiment de mes opérations, de tout l'enfer que j'ai traversé, jusqu'à ce moment où vraiment on a fini le montage et la musique du film, elle est morte à ce moment-là. Comme si, donc j'ai
Oui.
voulu mais aussi lui rendre hommage, et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Dans les yeux d'Electra, parce qu'elle s'appelait Electra, pour lui
Oui.
rendre hommage, où je parle aussi des moments, enfin, comme tu connais sans doute, où tu as pratiqué et tu es sur ton tapis de yoga et tu as la boule de poil qui déboule et qui fait son chien tête en bas, quoi. C'est quand
C'est
même
ça,
étonnant,
exactement. Oui.
étonnant,
Oui, les
étonnant.
animaux aussi sont des passeurs. Hein?
Ouais,
On le
absolument.
sait, ça. Lorsque tu viendras à Mexico, je te présenterai ici une personne qui est une grande défenseuse des animaux, qui justement est survivante de cancer aussi. Et Katia Arrida, je te la présenterai, on pourra en reparler.
Avec
En tout
plaisir.
cas, je pense que. Ah oui, je voulais te parler avant de se quitter, le livre Respire de Mireille Massé que je suis en train de lire. Je ne sais pas si tu le connais.
Non. Mais il est publié.
Il est publié, oui, il a été publié il y a quelques mois, peut-être 2 mois, 3 mois, je suis pas sûre, mais je suis en train de le lire actuellement. Très beau livre, très très beau livre, plus orienté. Ouais, c'est un mélange, il y a de la philosophie, il y a de la littérature. Elle, enfant d'un panadero, d'un boulanger qui
Ah oui.
toussait toute son enfance parce qu'il respirait les farines toxiques. Donc, c'est intéressant son histoire aussi. C'est vraiment un ouvrage littéraire que j'ai découvert récemment, donc je te le conseille.
Avec plaisir, ah, je
En
vais
tout cas,
noter.
Stéphane, oui, je voulais savoir, tu avais quel âge quand c'est arrivé, cet événement? Tu le dis, hein, 40,
Je devais arriver.
43, 40...
44 ans, je crois. Ouais.
44 ans, d'accord. Et aujourd'hui, tu as quel âge?
56.
56, d'accord. Mais tu fais beaucoup plus jeune que ton âge.
Ah,
C'est un des effets du yoga.
et voilà, pour
C'est
avant
le
mes yoga.
yoga, mais bien sûr.
Ah, je lisais
La
avec le
méditation.
yoga tous les matins, réciter un mantra et pratiquer, et je vous dire, le temps va s'arrêter.
Mais bien sûr. La méditation, enfin, moi, tout à l'heure, tu as parlé d'essorage. J'utilise souvent la métaphore de la machine à laver.
Ben, tu vois, voilà.
Pour moi, le yoga et la méditation, c'est une machine à laver. Tu rentres dans une machine à laver, tu es nettoyé, tu ressors. Donc forcément, c'est normal que, de toute façon, c'est prouvé scientifiquement, l'âge biologique et l'âge chronologique se séparent après plusieurs années de pratique.
Déjà, et puis je vais
Hein,
te
c'est...
donner une anecdote. J'ai rencontré un radiologiste, et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, il me disait un jour, de temps en temps, je ne vois pas les patients, parce que, enfin, les gens dont je fais les radios, parce qu'il y a, bon, je n'ai pas le temps. Et il me dit, par contre, de temps en temps, je regarde, et là, tout le temps, ceux qui pratiquent du yoga ont des os, une ossature qui a 10 ans de moins que leur âge. Et je ne suis pas surpris.
Non, moi non plus. Moi non plus. Pas du tout. Stéphane, c'est un plaisir de te parler. Je te remercie de nous avoir offert un peu de ta soirée, puisque pour toi, il est 18h30, presque 19h.
Ouais, presque
Et donc,
19h.
voilà, bah, c'est un premier entretien pour que ici aussi, les personnes qui ne te connaissaient pas te connaissent. On ira regarder, bien sûr, Yoga au fil des jours, Écoute, Dans les yeux d'Electra. Et je te propose de se revoir dès que tu as ton billet pour le Mexique.
Voilà, je te fais signe dès que j'arrive à Mexico City et je te fais estaki.
Perfect.
Ok, je te remercie.
Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Un vrai plaisir. Merci. Une grande joie. Bonne soirée, à très bientôt. Bye bye.